Ceci est une magnifique mise en abîme. Pour fabriquer une loi, il faut qu'elle soit discutée à l'Assemblée nationale. C'est la Constitution française qui fixe les règles du jeu de ces discussions. Et pour modifier la Constitution, pour modifier les règles du jeu, il faut d'abord en discuter à l'Assemblée nationale. On discute donc de la façon dont on pourra discuter à l'avenir. J'espère que tout le monde me suit toujours. Ces travaux parlementaires sur la réforme des institutions allaient bon train. Mais ils ont été interrompus pour cause d'affaires Benalla. Les députés sont désormais plus occupés à suivre et à commenter la commission d'enquête sur les agissements de ceux chargés de mission à l'Élysée. Mais le lien entre les deux, le lien entre l'affaire Benalla et la réforme de la Constitution ne s'arrête pas là. Car certains analysent cette crise, cette affaire d'État, ce gros couac, chacun y apporte l'étiquette qu'il préfère. Certains l'analysent au regard du fonctionnement de nos institutions. Peut-on y voir les dérives d'un régime hyper-présidentiel, comme le disent certains? Le rapport de force entre le Parlement et le président est-il déséquilibré en France? Le chef de l'État devrait-il être entendu par cette commission d'enquête parlementaire? Posons-nous les questions qui en découlent. À quoi sert une commission d'enquête parlementaire? Quelle est la responsabilité du chef de l'État? Finalement, cette affaire Benalla, même si elle a interrompu les discussions pour modifier la Constitution, elle justifie d'autant plus qu'on se plonge dans cette loi fondamentale, qu'on ausculte à la loupe ce texte qui fête ses 60 ans cette année. Pourquoi réformer la Constitution? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h.
Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter.
Yaël Gauz, le chef du service politique de la rédaction de France Inter, est à mes côtés. Bonjour Yaël.
Bonjour Dorothée.
Deux spécialistes de la Constitution française qui, face au même texte, ne tirent pas toujours les mêmes conclusions. On le verra. Bonjour Marie-Anne Coandet.
Bonjour.
Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et en duplex depuis les studios de France Bleu Béarn, Denis de Béchillon. Bonjour à vous.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur de droit à l'université de Pau. Vous avez participé en 2008 au comité présidé par Simone Veil, qui avait réfléchi déjà à modifier ou non le préambule de la Constitution. La conclusion était plutôt non, d'ailleurs, on y reviendra. Alors, avant d'entrer dans le détail, j'aimerais savoir si vous êtes déçu ou plutôt chagriné que cette affaire Benalla ait éclipsé les travaux parlementaires sur la réforme de la Constitution, Denis de Béchillon.
J'allais dire les deux, je suis assez satisfait qu'on ait suspendu les débats parce que l'ambiance n'était pas à la sérénité souhaitable pour mener des discussions importantes sur l'avenir de la Constitution. Et comme par-dessus le marché, ces débats étaient un peu obstrués par une obstruction parlementaire forte, je trouve qu'on a bien fait d'essayer de se donner un tout petit peu de temps pour faire les choses mieux. Alors si par ailleurs vous me demandez si je suis triste que l'affaire Benalla ait éclipsé les débats constitutionnels, oui, évidemment, je le suis, parce que c'est toujours triste de voir un fait divers prendre une place aussi considérable dans la vie publique.
Fait divers, dites-vous. Donc ce n'est pas une affaire d'État, selon vous? Ce n'est pas un scandale d'État?
Ça, j'en sais rien. J'ai pas de légitimité à statuer sur cette question. Ce que j'observe simplement, c'est que cette histoire a totalement cannibalisé la vie publique, le débat public, qu'on ne parle plus de rien d'autre, et qu'on se retrouve dans une configuration qui rappelle un peu l'affaire Fillon, où pour des raisons qui tenaient à des faits, à des événements qui n'étaient pas intrinsèquement d'une gravité dramatique, la totalité de la campagne de l'élection du président de la République avait été absorbée, et que ça avait rendu impossible, pour l'essentiel, la discussion publique sur les vraies grandes questions, les questions graves, celles qui touchent à l'avenir du pays. Et donc je regrette, vu que je n'ai pas de titre à dire si l'affaire Benalla est intrinsèquement grave ou pas, je regrette en tout cas qu'elle ait pris cette ampleur dans notre vie contemporaine.
Précisons d'emblée qu'il n'y a pas de définition juridique pour le terme affaire d'État, scandale d'État, Marie-Anne Coandet. De manière générale, la réforme des institutions, est-ce que c'est un sujet trop aride, trop austère pour que l'opinion publique s'en empare, contrairement à l'affaire Alexandre Benalla, par exemple?
Alors, c'est ce qu'on croyait il y a quelques années à propos du traité portant constitution pour l'Union européenne. On a dit que les gens ne s'y intéresseraient jamais, et en fait, on a vu que si, ils se sont appropriés le sujet.
On a beaucoup dit aussi qu'ils votaient pour autre chose, que c'était une manière de soutenir ou non
tout à fait, mais quand
le pouvoir
même,
en place.
Quand même, il y a beaucoup de gens qui étaient allés lire le texte, et Dieu sait qu'il était difficile, et qui avaient réfléchi, qui avaient débattu. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de s'intéresser à une révision constitutionnelle qu'à l'affaire Benalla, où on a une vidéo qui est effectivement très choquante, où on voit quelqu'un qui est souvent sur les images à côté de monsieur, à côté du président de la République, qui frappe un homme à terre. C'est extrêmement extrêmement choquant et ça porte atteinte à l'image de la République, à n'en pas douter.
Affaire d'État, scandale d'État selon vous, Marianne Grandet ?
Scandale d'État, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus, qu'il faut remettre les choses à leur juste place. Que oui, c'est scandaleux que cet individu ait pu se comporter comme s'il était CRS, usurper une fonction apparemment... Bon, il faut encore attendre les résultats de l'enquête et rester très prudent. Mais oui, c'est un vrai problème que cette personne-là ne soit pas immédiatement suspendue jusqu'à la fin de l'enquête, d'autant que ce n'est qu'un chargé de mission. Ce n'est pas et c'est peut-être de là que vient un petit peu le problème aussi. Si ça avait été un gendarme ou un policier, bon, on voit que la fonction publique que l'on songe tellement à... disons modifiée, que la fonction publique a du bon, qu'elle est utile, qu'elle forme les gens et que normalement elle a pour objet d'éviter ça, même si les bavures policières ont toujours existé.
Voici ce qu'a dit le Premier ministre Édouard Philippe ce matin devant les députés. Il parle d'une crise médiatique, parlementaire et politique. C'est une crise médiatique avant tout, selon vous, Yael Gauz ?
Non, bien sûr, elle est éminemment politique, cette crise, et on est là face aux zones d'ombre qui entourent, aux zones grises qui entourent le pouvoir présidentiel, le pouvoir exécutif, le pouvoir numéro 1 en France, puisqu'il découle de l'onction populaire, donc le président est tout puissant sous la 5e République, et là on voit bien qu'on est hors fonction publique, on est dans ce qu'on appelle les cabinets, donc comment ça fonctionne, comment on recrute, qui, comment, sur quelle base, effectivement là il y a un côté discrétionnaire, et pour tous les présidents il y a eu ce genre de problèmes qui se sont posés à un moment donné, de relations de confiance mélangées donc à un travail qui est quand même un travail public, puisque c'est pour le président de la République. Après, Dorothée, à savoir si oui ou non, il faut regretter que ce fait divers ou ce scandale d'État ait repoussé au calende grec le débat constitutionnel. Moi, je pense au contraire.
À la rentrée, pour l'instant, les calendes grecs.
Je suis ni déçu ni réjoui, mais je pense qu'il va revenir en force, mais avec de nouvelles bases sur ce débat. Parce qu'on assiste à quoi en ce moment ? À une revanche consciente ou inconsciente des parlementaires sur l'Élysée Jupiter. En ce moment, c'est ce qui se passe. Cette commission d'enquête parlementaire, parfois, il y a des moments un peu irrationnels, très violents, très passionnels. Mais qu'est-ce que ça traduit depuis un an ? C'est quelque part cet ancien monde que Emmanuel Macron avait ciblé, qui retrouve toute sa raison d'être, de contrôle de l'exécutif, de savoir ce qui s'est passé. Et donc, quelque part, on a peut-être des vases communicants. Le pouvoir à venir sur la réforme de la Constitution change de camp. Il n'est plus, aujourd'hui, ce n'est plus Emmanuel Macron qui a la main suite à ce qui s'est passé. C'est peut-être les députés, les sénateurs qui donnent rendez-vous à la rentrée et sans doute sur une réforme qui va évoluer.
Et il est bien là notre sujet du jour, hein, sur le rapport de force entre les différents pouvoirs. Pardon, mes invités, je le promets, vont faire preuve de pédagogie, de vulgarisation constitutionnelle. Avec vos questions, vos remarques, vos commentaires sur l'application France Inter de votre smartphone, sur notre site web à la rubrique Le Débat de Midi et sur Twitter, hashtag Débat de Midi. Émission préparée par Fanny Cohen-Moreau avec l'aide de Samuel Evno, réalisée par Fabrice Lègle. Philippe Duclos est à la technique. Bienvenue à tous.
Tu inverses les moments, renverses les choses. Tu renverses les moments, inverses les choses. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu dis des mots à la place des autres. Tu dis pourquoi sans même dire un mot. Tu ne connais plus le nom des fleurs du jardin. Tu ne connais plus le nom des fleurs. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu te rappelais pourtant de tout. Tu te rappelais pourtant de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien. De nous tu te rappelais de tout, mais à la fin de plus rien du tout. Tu te rappelais pourtant de nous, mais à la fin de plus rien.
Gaëtan Roussel chante l'espoir sur France Inter, extrait de son prochain album qui sortira en septembre, Hope. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert.
Le débat du midi, Dorothée Barba sur France Inter.
Avec Yael Gauze, le chef du service politique de France Inter, et avec deux spécialistes de la Constitution française pour parler de la réforme des institutions et de ce que l'affaire Benalla raconte du fonctionnement de ces institutions, justement. Le terme affaire d'État, on l'a dit, n'est pas forcément justifié. En revanche, la question du rapport de force entre l'exécutif et le Parlement se pose. Yael Gauze l'a dit à l'instant. Denis de Béchillon, je rappelle que vous êtes en duplex de Pau. Comment réagissez-vous à ce que vient de dire Yael Gauze?
Bon, écoutez, moi, je me méfie toujours beaucoup des excès d'enthousiasme pour le parlementarisme, parce que j'essaye d'avoir la mémoire un peu longue, et je me souviens que l'histoire parlementaire française, celle de la Troisième et celle de la Quatrième République, n'a pas donné que de bons résultats. Nous avons connu des régimes extrêmement parlementaires, voire des régimes d'assemblée, et on s'en est parfois mordu les doigts assez violemment. Je rappelle que la Troisième République se termine dans un cataclysme épouvantable et par un vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain avec les résultats qu'on sait. Je rappelle que la Quatrième République a expérimenté une surpuissance du Parlement avec des conséquences tout à fait épouvantables pour l'action publique, c'est-à-dire une très grande stérilisation de la décision politique à un moment où il fallait reconstruire la France avec une immense instabilité politique. Il y a eu, autant que je me souvienne, 21 gouvernements pendant les quelques années que la Quatrième République a duré. Tout ça doit faire beaucoup réfléchir et nous faire nous souvenir que Général de Gaulle, quand il a pensé les institutions de la Cinquième République, l'a fait en voulant tirer les plus grandes leçons de l'expérience. Vous savez, Général de Gaulle avait le sens du tragique. Il savait que les choses se terminaient souvent très mal et qu'il fallait prendre leçon de ce que l'histoire nous annonce. Et c'est pour cette raison-là que la Ve République a été conçue avec effectivement un pouvoir assez centralisé entre les mains du président de la République et du gouvernement. Mais comme il se trouve que j'admire beaucoup la Ve République, je ne me résous pas à penser qu'elle doit être condamnée. Nous avons traversé des périodes difficiles sous la Ve République sans aucun déficit démocratique, sans casse majeure, sans histoire dramatique. Nous avons connu la guerre d'Algérie, nous avons connu mai 68, nous avons connu la cohabitation, nous avons connu l'alternance et nous avons toujours été gouvernés dans un espace totalement démocratique. Je n'ai pas besoin d'un régime d'assemblée pour penser que nous sommes en démocratie.
Des voix s'élèvent tout de même pour dire que cette affaire Benalla justifie d'annuler tout simplement cette réforme constitutionnelle. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a dit qu'il se réjouissait que cette réforme soit placée au congélateur. Éric Coquerel, autre député insoumis, a dit ceci: nous allons tout droit vers un système présidentialiste à l'américaine, mais avec un Parlement beaucoup moins fort que le Congrès américain. Autrement dit, on cumulerait les défauts des deux systèmes. Qu'en pensez-vous, Marianne Coandet?
Alors d'abord, je voudrais revenir une seconde sur ce qu'a dit Denis Béchion, parce que je suis en désaccord absolu avec lui sur l'analyse des 3e et 4e République. En réalité, donc je suis d'accord avec lui pour dire que sous les 3e et 4e, il y avait beaucoup d'instabilité parlementaire et des inconvénients majeurs. Là où je ne suis pas d'accord, c'est sur leur cause. Si on analyse précisément les choses, la cause première, la source de l'instabilité parlementaire sous les 3e et 4e, ce n'est pas la faiblesse du président, mais ce sont les abus de pouvoir de MacMahon. Abus de pouvoir dans le choix du Premier ministre, parce qu'il refusait de choisir chaque fois qu'il le pouvait le leader de la majorité, et abus de pouvoir dans l'usage du droit de dissolution.
Donc, les dysfonctionnements n'étaient pas écrits dans la loi fondamentale.
Pas du tout. C'est les circonstances qui ont fait que la Constitution a été très mal interprétée par MacMahon, qui était un vieux maréchal complètement autoritaire. Et ensuite, Jules Grévy a poursuivi le déséquilibre des institutions en renonçant au droit de dissolution et en continuant à refuser de nommer Gambetta, qui était le leader de la majorité, comme Premier ministre. Alors pourquoi c'est très important? Parce que le cœur de tous nos déséquilibres institutionnels, encore aujourd'hui, trouve sa source là. C'est-à-dire que il faut bien voir que tous les pays de l'UE, sauf Chypre, ont un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime où le gouvernement est responsable devant le Parlement. Que la moitié d'entre eux élisent le président directement. Et pourtant, il n'y a qu'en France qu'on a un président surpuissant. Pourquoi ? Ben notamment parce qu'on a pris l'habitude, trop longtemps, de lui donner des pouvoirs excessifs. Or, on ne peut pas juger la pertinence du régime parlementaire à la lumière des 3e et 4e, parce que c'était des régimes qui ont été déséquilibrés dans les faits à cause des abus de pouvoir présidentiels au départ.
Alors justement, considérez-vous que la réforme qui était prévue, qui était en cours de discussion, augmentait encore les pouvoirs du président de la République ?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'augmentation très claire, mais sur certains points on prenait cette piste-là. Par exemple, quand le président disait bah, « tout compte fait, il faudrait que je puisse débattre avec les parlementaires ». Là, on ne s'intéressait plus, on se posait plus de problème de séparation des pouvoirs, c'est quand même un petit peu embêtant. Et surtout, on rejoint le problème qui est au cœur du régime parlementaire et qui fait que, attention, dans le texte de la Constitution, le président n'est pas du tout celui qui dirige tout. La Constitution, rappelons-le, c'est notre contrat social. C'est les règles du jeu politique, institutionnel, les droits de l'homme fondamentaux qui sont affirmés par le peuple, directement ou par ses représentants. Donc c'est quelque chose de très important et qui doit être clair. Or, dans le texte de la Constitution, le président est un arbitre. Et pratiquement tous les problèmes que l'on observe sous la cinquième viennent de ce que le président ne se comporte pas en arbitre, mais en capitaine. Et là encore aujourd'hui, quand même, cette affaire Benalla est très problématique en ce que ce monsieur s'est senti tout puissant parce que il était souvent à côté du président de la République, il était son chargé de mission. Et cette sensation de surpuissance, elle est inadmissible en République et elle vient, à mon sens, en partie de cette espèce de monarchisme de fait.
Voilà qui interroge effectivement sur la responsabilité du président. La commission d'enquête parlementaire continue ses auditions aujourd'hui, hein, et nombreux sont les députés qui voudraient y voir Emmanuel Macron. Est-ce possible, sur le plan juridique, une convocation d'Emmanuel Macron devant la commission d'enquête parlementaire, Denis de Béchillon?
Ah, c'est une monstruosité constitutionnelle absolue, quoi qu'en aient dit certains. Suffit de lire sa constitution. L'article 51.2 que j'ai sous les yeux nous dit que pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête parlementaire peuvent être créées. Or, l'article 24 nous dit, lui, que le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. Or, le gouvernement, ça n'est pas le président de la République. La constitution est structurée selon une division forte qui distingue le gouvernement de la présidence. Il y a donc une impossibilité absolue, constitutionnelle. Alors j'ajoute qu'il y a une autre raison qui est plus dans l'esprit même de la Ve République qui s'y oppose. Cette raison, c'est que le président de la République a un statut qu'on a voulu protecteur. Il n'y a pas de responsabilité politique possible du président de la République sous la Ve République. Il n'y a pas non plus de responsabilité pénale en dehors du cas très particulier de sa destitution devant la Haute Cour de justice. Il est donc extrêmement important que le président de la République ne soit jamais mis en situation de se voir accusé. Or, une commission d'enquête parlementaire, ça fonctionne en gros comme une juridiction sur le plan formel. On ne peut pas y mentir, on est obligé de déférer à sa convocation, ça équivaut quelque part à une convocation devant un juge, et ça c'est une incompatibilité tout à fait structurelle qui s'y oppose. Donc ça si vous voulez, je trouve que quand on lit un peu le texte de la Constitution, et de nouveau qu'on n'a pas la mémoire trop courte, il faut être conscient de ce que c'est purement et simplement monstrueux comme idée.
Monstrueux, comme vous y allez. La question a été posée à François de Rugy hier sur France Inter, sur l'antenne. Il répondait aux questions de Frédéric Mettezeau.
Tout le monde a toujours dit que le président de la République n'était pas responsable non plus politiquement devant le Parlement. Puisqu'il est élu au suffrage universel direct par les Français, c'est le gouvernement qui est responsable devant le Parlement et qui peut à tout moment s'expliquer. Je souhaite d'ailleurs, ça a été dit dans les débats de ces derniers jours, que l'on progresse dans notre Constitution pour pouvoir notamment, dans ces cas-là, convoquer un ministre ou convoquer des membres du gouvernement au Parlement. Aujourd'hui, on ne le peut pas. Ça n'aurait pas de sens.
Voilà, le président de l'Assemblée nationale estime que ça n'aurait pas de sens. Vous faites-vous aussi la même lecture, Marianne Coandet, de la Constitution? Impossible de convoquer Emmanuel Macron?
Alors, je serais beaucoup plus nuancée que mon collègue là-dessus. Parce que, par principe, une commission d'enquête devrait pouvoir auditionner absolument n'importe qui, y compris le président de la République. Nous ne sommes pas en monarchie. Et donc, là où je suis complètement d'accord avec lui, c'est qu'il est absolument impensable de mettre en cause la responsabilité du président de la République. Ceux qui sont responsables devant le Parlement, ce sont les membres du gouvernement et pas le président de la République. Là-dessus, on est d'accord. Mais s'il s'agit de recueillir un témoignage et non pas de porter des accusations, je serais beaucoup moins catégorique.
La commission d'enquête transforme-t-elle les parlementaires en juges, hein? C'est la question que ça pose, Yael Gauze.
Non, je le pense pas. Et surtout que dans le cas d'Emmanuel Macron, on voit qu'il veut faire évoluer la pratique. Ce qui s'est passé début juillet, le 9 juillet au Congrès à Versailles, est à marquer d'une pierre blanche. Quand il a dit, et Marianne vous en parliez, qu'il était prêt à débattre l'année prochaine lors du discours de Versailles devant le Congrès avec les groupes parlementaires, ce serait absolument inédit. Il faudrait pour ça changer la Constitution, puisque normalement c'est hors sa présence que peut avoir lieu un débat.
Donc il est au-dessus de l'arène parlementaire.
Donc il est prêt à faire bouger la pratique de ce point de vue-là. Pourquoi ne serait-il pas prêt à faire bouger la pratique devant une commission d'enquête parlementaire? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, depuis 48 heures maintenant que les auditions ont commencé, on voit bien que tout converge vers cette question que savait l'Élysée, que savait le président. D'ailleurs, c'est le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui sera entendu en fin d'après-midi à l'Assemblée, son secrétaire général jeudi matin au Sénat. Donc ça converge vers l'Élysée. Mais on n'a pas l'acteur clé, celui qui a la clé de l'histoire, qui est Emmanuel Macron. Finalement, il va être responsable devant qui, Emmanuel Macron? Pas devant la presse. Et s'il daigne parler à la presse? Voilà, la commission d'enquête parlementaire, pour lui, ça n'existera pas. Mais il y aura peut-être un 20h ou une interview au Monde ou à France Inter. Qui sait? Mais c'est donc nous qui ferons le travail de la commission d'enquête parlementaire. Est-ce que c'est normal? Pas sûr.
Denis de Béchillon.
Alors je suis en très grand désaccord. Je pense, il m'arrive de penser que le président Macron a de très bonnes idées, mais là, celle-là, je pense qu'elle n'est pas bonne. Je crois que c'est une erreur d'avoir voulu que le président de la République puisse rester devant le Congrès, répondre à des questions et participer à un débat. Je pense que contrairement à ce que disait Marianne Cordet, ça ne le renforce pas du tout, ça l'affaiblit terriblement parce qu'il sera sous le feu de critiques au demeurant plus ou moins posturales et il sera dans une position d'accusé, il aura donc quelque part à se défendre. Mais surtout, je voudrais de nouveau qu'on ait un peu la mémoire longue.
Mais c'est son choix, c'est lui qui façonne les institutions.
Oui, mais il n'est pas...
Il n'y a pas que le texte.
D'accord, mais là, on parle d'une proposition de révision de la Constitution. Donc, pour l'instant, ça n'est pas possible, et je souhaite que ça reste impossible. Si le constituant souhaite modifier cette règle, très bien qu'il le fasse. J'espère qu'il ne le fera pas, parce que ça me paraît de nature à affaiblir assez considérablement la fonction présidentielle. Encore une fois, pour des raisons historiques, pourquoi est-ce que pendant très longtemps, on a pas voulu que le président de la République aille devant la représentation parlementaire? Et pourquoi est-ce qu'en 2008, on a voulu qu'il puisse prononcer un discours, mais ne pas participer à un débat et ne pas rester présent lorsque les parlementaires souhaitent l'interpeller? Ben c'est précisément parce qu'on a voulu éviter que le débat parlementaire ne dérive sous une forme d'accusation politique. Et cette dérive, c'est celle qu'on a expérimentée en France, notamment sous la Troisième République et sous la Quatrième. On ne sait jamais comment peut se terminer un débat parlementaire dans la chaleur de l'instant, et quand on a le souci de protéger la fonction présidentielle, je me fiche qu'on protège la personne, je veux qu'on protège la fonction. Quand on a ce souci, ben il est très important que le président ne soit pas dans la dérive d'un débat, mis dans une position d'accusé. Le président a mis l'occasion de s'exprimer, le président a mis l'occasion de répondre aux questions que les Français lui posent. Il n'y a absolument pas besoin de faire ça dans un contexte parlementaire où c'est l'amorce d'une responsabilité politique qui se profile à l'horizon.
Il y a d'ailleurs un précédent en la matière, hein, l'affaire dite des avions renifleurs, un scandale qui avait éclaté en 1983, mais qui concernait le président précédent, Valéry Giscard d'Estaing. La commission d'enquête parlementaire avait à l'époque demandé à entendre Valéry Giscard d'Estaing. Et le président en exercice, François Mitterrand, s'y était opposé au nom de l'immunité des chefs d'État et de celle des anciens chefs d'État, Marianne Cordet.
Oui, moi ça m'a toujours choquée. Je pense que le chef d'État est un homme comme les autres et qu'il devrait pouvoir s'exprimer publiquement, non seulement devant les micros, mais devant les représentants du peuple. Même si j'entends bien, et je suis assez d'accord avec Denis Béchillon, sur le vrai risque de dérive vers une responsabilité politique. Mais là, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir le pouvoir sans la responsabilité, parce que c'est bien là que se trouve le cœur du problème. On a un président qui veut être libre, qui n'est pas contrôlé, dont les finances à l'Élysée ne sont pas contrôlées, qui embauche qui il veut et qu'il veut en même temps n'avoir de compte à rendre à personne. Il y a un moment où c'est plus possible. Et c'est là qu'on voit bien cette dérive de la pratique de la Ve République qui n'est pas inhérente au texte.
Voici ce qu'a écrit hier sur son compte Twitter le député Robin Reda, député des Républicains, Les Républicains de l'Essonne. Membre de la commission d'enquête, je propose de mettre l'exécutif face aux Français. Transmettez-moi par tweet vos questions à Gérard Collomb et je les poserai directement au ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous y voyez une façon de réinventer les règles des institutions, Yael Gouz?
Ben oui, mais en fait, quelque part, c'est les auditeurs ont la parole, quoi. Donc venez.
C'est le téléphone sonne à l'Assemblée.
Midi, donc
voilà.
Emmanuel Macron, venez ici. C'est aussi simple, peut-être, que de passer par le truchement d'un député qui relaierait les questions. Effectivement, il y a le danger, effectivement, de mettre le président dans un rôle qui n'est pas le sien.
Là, c'était Gérard Collomb, mais effectivement.
C'était Gérard Collomb. Ouais.
Mais... Denis de Béchillon, ça vous surprend cette pratique? politique.
Écoutez, moi, je suis en désaccord avec tout, et peut-être avant tout avec l'idée que le président de la République soit un homme comme les autres. Alors effectivement, oui, il se lève le matin, il se couche le soir, d'ailleurs paraît-il assez tard, mais c'est pas la question. Le président de la République, il est investi de l'essentiel. Si on a de nouveau un peu le sens du tragique, on se souvient d'abord qu'il a été élu individuellement par les Français, et que les Français l'ont investi d'une mission. Cette mission, elle suppose la vie, la mort, la paix, la guerre, la détermination des grandes articulations politique du pays, la réaction à des événements internationaux qui sont toujours imprévisibles, à des drames nationaux. Ça n'est pas un homme comme les autres, parce que la fonction n'est pas une fonction comme les autres. L'idée de vouloir donner en pâture le président de la République au bon peuple en le soumettant à une accusation perpétuelle où que ce soit est une idée qui méconnaît qu'il n'est pas là pour faire plaisir aux gens, mais pour donner au pays ce dont le pays a besoin, c'est-à-dire une direction, quel que soit le président de la République. Et j'allais dire, la sanction, Marianne Condé disait à l'instant, l'Élysée n'est pas contrôlée sur le plan de ses finances. Ça n'est pas vrai. Depuis Nicolas Sarkozy, la Cour des comptes va à l'Élysée. Ça n'est pas vrai non plus qu'il n'y a pas de sanction. Le président va devant les Français au bout de 5 ans de son mandat. Si
au
les Français ne sont
ans.
Pas contents.
Enfin, il peut faire n'importe quoi pendant 5 ans.
Heureusement que les Français ne sont pas préjugés irresponsables au point de ne pas savoir qu'ils élisent quelqu'un pour 5 ans. Avant, c'était 7.
Oui, l'acte mais de en vote cours de mandat, on ne peut rien faire. Donc il n'y a pas de vraie responsabilité politique.
Heureux,
je voudrais revenir sur une chose quand même.
Sur
ce côté sacré du président intouchable, je suis désolée, mais dans tous les autres pays de l'UE, sauf à Chypre et en France, celui qui dirige la politique nationale, celui qui est investi de ses missions fondamentales, c'est le Premier ministre. Et le Premier ministre, à tout moment, peut être interrogé, contrôlé et sanctionné par le Parlement. Et ces pays se portent très bien. Je crois qu'il... Mais bien sûr que si, dans la moitié des pays de l'UE, il est élu au suffrage universel.
Non,
et
pas,
malgré
pas
ça,
le président
est élu dans la moitié des pays de l'UE au suffrage universel direct. Mais ce n'est justement pas lui qui dirige, parce que celui qui dirige, c'est celui qui est responsable. Et justement, c'est le Premier ministre parce qu'il est contrôlable. Et notre problème en France, c'est d'avoir un dirigeant qui n'est pas contrôlable.
La réforme des institutions telle qu'elle a été prévue et qu'elle a été interrompue, on le dit, on le répète, hein, est-ce qu'elle prévoyait, selon vous, Marianne Coandet, de rééquilibrer ce rapport de force ?
Non, la révision qui était en cours ne rééquilibrait pas du tout ce rapport de force.
Donc vous vous réjouissez plutôt de cette interruption ?
Non, parce qu'il y avait quand même plusieurs choses qui étaient intéressantes dans cette réforme, notamment l'article 1, de réaffirmer que la République agit pour la protection de l'environnement, l'action contre les changements climatiques, la protection de la biodiversité. Regardez, presque toutes les informations qu'on a eues aujourd'hui sont liées au changement climatique. Les incendies en Grèce, les immigrés qui sont des gens qui meurent chez eux bien souvent à cause du changement climatique, ou encore les écologistes, les 200 écologistes qui se font tuer sur Terre, c'est presque tout lié au changement climatique. Là, cette réforme allait réaffirmer fortement la nécessité d'action, de même sur plusieurs autres points, il y avait de bonnes choses.
Denis de Béchillon, je crois, n'est pas d'accord avec vous sur cette histoire d'article 1, je lui donne la parole dans un instant. Voici d'abord un peu de musique, une voix en or sur France Inter, celle de Jeanne Haddad. Il est midi 35.
Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. Say, can you see how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration?
Unusual,
chanteuse française qui écrit en anglais et qui chante en anglais. C'était Jeanne Haddad, dont le deuxième album sortira à la rentrée. Pourquoi réformer la Constitution? Voilà la question qui nous occupe aujourd'hui dans le débat de midi avec Yaël Gauze, service politique de France Inter, et avec deux professeurs de droit public, Denis de Béchillon et Marie-Anne Coandet. Alors j'aimerais qu'on en revienne à cette histoire d'environnement dans la Constitution. Denis de Béchillon, pour vous, est-ce une bonne nouvelle?
Alors, si vous voulez, le fait qu'on veuille inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution me paraît une bonne idée en soi, essentiellement pour des raisons de politique internationale. Je pense que c'est très bien que la France puisse se situer dans un camp très nettement non climato-sceptique dans la relation avec les États-Unis, c'est utile. Alors, de là à considérer que c'est la très très grande affaire de la révision constitutionnelle, je suis loin de faire le pas.
C'est affaire de symbole.
Oui, c'est affaire de symbole, et puis surtout c'est extrêmement redondant, parce qu'on avait déjà en 2004 ajouté un troisième pan au préambule de la Constitution, qui est la Charte de l'environnement, qui met beaucoup l'accent sur les questions écologiques, et donc on pouvait considérer que c'est déjà plus ou moins contenu dans le texte. Et puis de manière générale, et ça renvoie peut-être à l'autre ajout qui serait fait à l'article 1er qui concerne la disparition du mot de race dans la Constitution, je suis très hostile à ce qu'on fasse du symbolique à l'état pur dans la Constitution, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est souvent un peu vandalisant sur le plan historique. Si vous voulez, la disparition du mot de race, dans le discours d'aujourd'hui, ça vise à montrer que le mot de race est intrinsèquement illégitime parce qu'il n'y a pas de fondement scientifique à la race.
Alors ça, je précise, si vous le permettez, hein, il était écrit auparavant, « La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, et ce sera désormais sans distinction d'origine, de sexe ou de religion ».
Alors le sexe était déjà fait depuis une belle lurette, puisque l'égalité homme-femme,
c'est ainsi que la phrase est modifiée.
Très fortement dans la Constitution. Il faut bien comprendre qu'en 1946, quand on écrit le préambule de la Constitution et dans lequel on dit que la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain sans distinction de race, de religion et de croyance possède des droits inaliénables et sacrés, on fait un geste qui est incroyablement puissant et beau en regard de ce que le monde vient de vivre en termes d'extermination raciale. Donc les outils juridiques pour dire que le racisme est la pire des choses et que la notion même de race est intrinsèquement illégitime, on les a déjà. Donc la gentille facilité qu'on se donne maintenant de supprimer le mot de race de la Constitution n'est autre qu'une petite gesticulation, sans aucune espèce d'efficacité juridique, et avec, je crois, un inconvénient historique, c'est que ça ne met pas les générations futures en mesure de bien comprendre ce qui s'est joué en 46 quand on a tiré les leçons de l'expérience.
La présence du mot race dans la Constitution suggère tout de même que les races existent, Denis de Béchillon.
Mais pas du tout, absolument pas. Quand vous êtes un antiraciste, vous êtes d'abord fondamentalement convaincu que l'existence même d'une distinction des races, et a fortiori de leur hiérarchisation, est une monstruosité. L'antiracisme comporte le mot de race. Donc, de toute façon, tout ça n'a en vérité pas beaucoup de sens possible. Juste un point supplémentaire, quand on veut faire du symbolique dans une constitution, on prend par-dessus le marché un très gros risque, c'est que le symbolique ne le reste pas longtemps. L'expérience montre que chaque fois qu'on a voulu faire ça, on se rend compte 5, 10, 15 ans plus tard que les juges, d'ailleurs assez à juste titre, raisonnent comme si le constituant ne tirait jamais à blanc, comme si ce qu'il avait voulu faire était nécessairement porteur d'une innovation juridique. Le problème, c'est que on ne contrôle plus ce que les juges pourront interpréter de cette innovation 5 ou 10 ans après. Marie-Anne Coandet connaît très bien comme moi ce qui s'est passé au moment de la ratification du traité de Maastricht. On a voulu faire un petit coup de chapeau à la construction européenne parce qu'on pensait que c'était très joli. Et quelques années après, on s'est retrouvé avec un changement de régime assez profond en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois de transposition des directives communautaires. Personne n'y avait pensé, personne n'y avait réfléchi, personne ne l'avait voulu, et pourtant on l'a fait. Donc il faut beaucoup se méfier de l'idée que le constituant peut faire des choses purement esthétiques, intellectuellement satisfaisantes ou symboliques. C'est globalement dangereux.
Marie-Anne Coandet, est-ce le rôle de la Constitution que d'afficher des symboles finalement?
Alors, là encore des désaccords nombreux avec Denis de Béchillon. D'abord sur la race, pas du tout d'accord. Le mot race est une ineptie, une monstruosité, une horreur, et qu'on l'enlève de
mais
la Constitution.
Mais c'est en ce sens qu'il a été écrit à l'époque, pour lutter
oui,
contre
le nazisme. Oui, je sais bien, mais il n'empêche qu'à l'époque, on croyait encore qu'il y avait des races. Et le fait qu'on a découvert que les races n'existaient pas, impose qu'on retire ce mot de la Constitution. Donc je suis en désaccord sur ce point, je pense que c'est une bonne chose de supprimer cette référence à la race.
Pardon, le risque n'est-il pas d'affaiblir l'arsenal juridique de lutte contre le racisme
pas
en enlevant
tout,
ce mot?
Pas du tout, parce que les racistes, on sait toujours très bien ce que c'est. On sait toujours que c'est une monstruosité, que c'est une atteinte au principe fondamental de la démocratie selon lequel tous les hommes sont égaux en dignité et en droit, et que dans cet article 1, on interdit toujours les discriminations en fonction des origines. Donc, c'est très bien, je trouve qu'on enlève le mot race. Ensuite, sur la question du symbolique, toutes les constitutions ont une part de symbolique, bien sûr, parce que c'est le texte fondamental de la société. Mais fort heureusement, ce n'est pas que du symbole, une constitution. C'est un ensemble de règles, ce sont les règles de base de notre jeu. Et donc, c'est bien heureux que ce ne soit pas seulement des symboles. Et si l'on inscrit dans la Constitution que l'on doit agir contre les changements climatiques, que la République doit agir, parce que quand on écrit « agit », ça signifie « doit agir » contre les changements climatiques pour préserver la biodiversité, c'est une question de survie, pas seulement pour nos enfants et les générations futures, mais déjà pour nous, on annonce des 55 degrés à Paris dans quelques années.
On donc pourra s'en prévaloir de ce texte.
Mais bien sûr, et heureusement. Et Denis Béchillon nous dit « on ne peut pas contrôler ce que font les juges ». Ben bien sûr que si. Si les juges font une interprétation de la Constitution ou de la loi qui est problématique, il appartient au peuple ou à ses représentants de modifier la loi ou la Constitution.
Yael Gauze.
Mais c'est le débat de savoir si on peut retoiletter régulièrement cette Constitution, si on est dans le cosmétique, si on peut coller au temps présent. Et dans les débats qu'il y a eu avant l'arrêt, hein, la pause du débat sur la révision constitutionnelle, il y a eu un débat intéressant sur la charte du numérique, alors qu'il n'a pas été retenu par les députés.
On dit beaucoup que c'est le concours Lepine des députés,
ouais,
d'ailleurs. Chacun
oui.
a sa petite idée pour y ajouter quelque chose dans la Constitution.
La société dans laquelle on entre est une société 100% numérique. Il faut coller aux nouveaux usages. Et le débat, c'était à l'article 34 hein, de la Constitution d'ajouter la protection des données, le droit à l'oubli, la souveraineté numérique, le respect de la vie privée, consacrer la neutralité du net. Reconnaissez que c'est pas un débat mineur et que ça va évidemment engager notre génération, les suivantes, en France par rapport aux grandes dominations des GAFA, dont on sait à quel point aujourd'hui il est difficile de les contrôler. On les taxe au niveau de l'Union Européenne. Donc là, par exemple, c'est le débat de savoir si ça doit rentrer dans la Constitution. C'est intéressant. Ça ne sera pas pour cette fois-ci.
Ça n'a pas été retenu. Ouais.
Ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois. Il y a eu aussi le droit à la contraception et à l'avortement dans le préambule, rejeté également. Mais au moins, ça a le mérite d'une chose, bien d'essayer de voir que cette loi fondamentale, elle est évolutive et peut coller aussi à la société au moment où le débat a lieu.
Éric Ciotti voulait lui ajouter le mot laïcité à la devise française, ça n'a pas été retenu non plus. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il voulait faire apparaître dans la loi fondamentale le droit à mourir dans la dignité. J'en passe beaucoup d'autres. Il a été aussi question du retour au septennat et d'écriture inclusive, au masculin et au féminin. J'imagine que... Voilà, vous choque un peu, Denis de Béchillon. Il faut toujours toucher avec parcimonie à cette loi fondamentale.
Oui. Le concours Lépine, c'est une très belle formule.
Catalogue
le sapin
de la
Noël,
redoute,
c'est bien aussi auquel on rajoute des boules tous les matins. Le problème, c'est que ces questions sont toutes très importantes et elles sont tellement importantes qu'il est déraisonnable de les régler sur un coup de menton après quelques minutes de débat parlementaire sans une réflexion extrêmement
importante. Ça dure parfois des heures.
C'est pas le cas.
Non.
Une toute petite remarque. On est quand même à l'Assemblée. Ensuite, la balle est renvoyée au Sénat. Et puis ça revient, puis il faut qu'il y ait un vote conforme.
Non,
ensuite,
écoutez,
un congrès ou un référendum, il y a quand même des filtres. Hein,
on ne passe pas par-dessus les jambes.
Si vous voulez, par exemple, sur des questions essentielles comme la protection des données, il faut évidemment un travail préparatoire absolument approfondi, il faut être absolument certain de ne pas faire de bêtises, il faut une réflexion qui dépasse le cadre du strict débat parlementaire, et il faut que ce soit préparé. Je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, on est à peu près d'accord pour penser que on a une très bonne législation en matière de bioéthique et en matière de fin de vie. Pourquoi ? Même s'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec le résultat. Pourquoi ? Parce qu'on s'est donné des considérables moyens de réévaluation périodique de la législation. On a des clauses de rendez-vous et le Parlement, pour une fois sur ces questions, se met à travailler avec une très grande application, écoute des experts, prend du temps, refuse la posture purement idéologique et revient périodiquement sur les textes textes antérieurs pour voir si on les aménage et jusqu'où on les aménage. C'est la perfection absolue de la législation parlementaire dans sa meilleure acception. C'est très exactement ce qu'on ne peut pas faire avec un texte constitutionnel, parce que tout simplement les conditions politiques peuvent ne pas être réunies pour refaire périodiquement ce qu'on aurait éventuellement mal fait. Et ça montre bien qu'on a intérêt à ne jamais perdre de vue que le geste constitutionnel est terriblement irréversible et qu'il suppose une très grande réflexion en amont, prudente, peu idéologique, centrée sur les conséquences de ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle je trouve toujours invraisemblablement dangereux qu'on puisse voter à toute vitesse, comme on l'avait fait par exemple pour le principe de parité professionnelle entre les hommes et les femmes lors de la réforme de 2008, des éléments structurants pour la vie de la société sans avoir plus réfléchi que ça. Sur la parité homme-femme, c'était 6 minutes de débat à l'Assemblée, 5 minutes au Sénat. Il y a des universités américaines entières consacrées à cette question de savoir s'il n'aurait pas mieux valu faire un moratoire pour éviter qu'il y ait un ressentiment à l'égard de la discrimination positive faites aux femmes, etc. Et là, pof, on trouve que c'est bien, et donc on y va. Moi, je dis, ce sont des choses beaucoup trop sérieuses pour être laissées à la chaleur du débat et à l'improvisation.
C'est dangereux, donc. Une constitution doit être courte et obscure, disait un certain Napoléon Ier. Alors, l'obscurité, personne ne la reprend à son compte, mais la longueur, Marianne Candé, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut faire attention à ne pas rajouter un catalogue de la redoute dans cette constitution française ?
Alors là, il y a des points de vue complètement différents. Donc évidemment, on rejette l'exception de Bonaparte. Il disait qu'une constitution doit être courte et obscure pour que le chef soit plus puissant. Évidemment, c'est pas du tout ce à quoi j'adhère. Après, il y a des traditions différentes selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, ils ont une constitution qui est courte et claire et très difficile à modifier. À l'opposé, presque toutes les jeunes démocraties ont des constitutions très longues, 200, 300 articles, et très détaillées, notamment sur les droits de l'homme, sur l'environnement, sur l'action contre les changements climatiques, etc. Ce sont des visions des choses différentes. Par exemple, en Inde, on révise très souvent la constitution pour qu'elle suive l'évolution des mœurs. Qu'est-ce qui vaut mieux, que la constitution soit modifiée dans les fêtes, en douceur, discrètement, par des juges ou d'autres? Parce qu'aux États-Unis, c'est ça. Aux États-Unis, c'est parce qu'on ne peut presque pas toucher la Constitution que la Cour suprême a un pouvoir hallucinant. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ou est-ce qu'on ne préfère pas plutôt que ce soit le peuple ou ses représentants qui aient dans la main le pouvoir d'adapter la Constitution aux mœurs ? Je suis d'accord avec Denis de Béchillon pour dire qu'il ne faut pas la changer tous les trois jours. J'en avais discuté avec Raymond Jeannot, qui était le bras droit du général de Gaulle au moment de l'adoption de la Constitution. Et leur souci était justement, par l'article 89, que la Constitution ne soit pas quelque chose d'absolument intangible, qu'elle puisse évoluer, mais qu'on ne puisse pas pour autant non plus la changer tous les trois jours.
Elle a d'ailleurs 60 ans, je le disais, elle fête son anniversaire en octobre, cette constitution, et elle a été modifiée 25 fois. Est-ce 24. Que c'est beaucoup ? 24, ça sera la 25e si ça aboutit, voilà. C'est ça ? Est-ce que c'est beaucoup ? Pas beaucoup, Marianne Candé ?
Tout est relatif. Certains collègues se plaignent que c'est scandaleux. Moi, je trouve ça plutôt très bien.
Denis de Béchillon, c'est trop ? 25 fois ?
Non, moi, je trouve ça pas mal. C'est un bon rythme, c'est un bon rythme.
Yael Gauze.
Non, pas trop, et parfois ça donne des nouveaux droits. Je sais pas si on a mesuré le succès depuis la révision de 2008 qui s'est jouée à une seule voix.
D'ailleurs, Bernard nous demande par mail, la précédente réforme de 2008 a-t-elle été pleinement mise en œuvre ? Avant d'en faire une nouvelle, c'est peut-être pas mal de se poser la question.
J'ai envie de vous dire oui, parce que c'est l'adresse du président devant le Congrès, devant les parlementaires. On y a assisté avec François Hollande déjà, ensuite avec Emmanuel Macron. Le référendum d'initiative partagée, là je suis moins sûr. Par contre, vous avez un succès majeur, c'est les QPC, questions prioritaires de constitutionnalité. Et là, c'est un vrai progrès démocratique, à mon sens. C'est-à-dire que le citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel pour faire avancer un point de droit, comprendre comment il faut interpréter une notion. Et dernièrement, on a vu, sur le mot fraternité, à quel point le Conseil constitutionnel était présent sur le sujet. C'était l'affaire Cédric Héroux. Est-ce que oui ou non, on peut aider un migrant en situation irrégulière ? Eh bien, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer grâce à une QPC posée donc par des citoyens. Et ça, c'est un progrès de la révision de 2008.
Et ça, c'est très concret, en effet. Denis de Béchillon, vous participiez en 2008 au comité dirigé par Simone Veil pour examiner l'opportunité ou non de modifier le préambule de la Constitution. Il était question notamment de dignité humaine. Et cette question de la dignité humaine, elle est revenue très récemment à l'Assemblée. Vous pensiez qu'il ne fallait pas l'ajouter à la Constitution ?
Oui, moi, alors là, je ne parle pas au nom du comité. C'est vrai que le comité Veil avait estimé que, sous la réserve de ce qui pourrait être fait en termes d'égale dignité de la personne humaine, il n'y avait pas lieu de modifier le préambule parce qu'il était suffisant. Ce point sur lequel, d'ailleurs, on peut discuter. Il y a probablement des ajouts qui seraient pertinents si on prend le temps d'y réfléchir dans les meilleures conditions. Mais il faut bien comprendre que la dignité de la personne humaine, elle est dans la Constitution. Le Conseil constitutionnel l'a jugée d'une manière absolument brillante à propos du texte du préambule de 46 dont je vous parlais tout à l'heure. Quand on écrit un préambule qui commence par « au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine » et qu'on écrit un préambule entier de Constitution pour dire « voilà, nous venons de traverser le nazisme, nous venons de traverser l'extermination, nous avons tiré la leçon de ce que c'est l'absence de considération pour l'égale dignité des êtres humains », ça signifie bien sûr qu'on a la dignité de la personne humaine non seulement en ligne de mire, mais au cœur de sa pensée et de sa réflexion. Alors, est-ce qu'il faut absolument écrire en toutes lettres dans une constitution ce que, de toute évidence, on peut y lire si on est raisonnablement informé et que par-dessus le marché, le Conseil constitutionnel a parfaitement sanctionné ? À titre personnel, je ne le pense pas, et je le pense d'autant moins que si on écrit le terme dignité comme ça, sans précaution particulière, on s'expose à ce qu'il soit interprété d'une manière totalement différente et qui aboutisse à produire un contrôle social absolument étouffant sur les gens, leur disant s'ils doivent ou pas mettre un voile sur leur tête et toutes ces sortes de choses. Donc je me méfie beaucoup de ça. Je pense qu'il n'y a aucune plus-value juridique parce que la dignité est très bien protégée en France et je pense que tout ça est de nouveau assez gesticulatoire et moi j'aime bien que la Constitution serve à quelque chose.
On l'a bien compris. Tenez, voilà une preuve que la Constitution est au cœur de l'actualité mondiale. Le pays Cuba vient d'adopter une nouvelle constitution qui reconnaît la propriété privée.
J'ai comme envie de tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les plombs, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi,
comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de t'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat, comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi, je peux très bien me
passer de toi.
Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever ton chat. Je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie de crever ton chat, comme envie d'accident de voiture.
Un petit bol de nostalgie à 12h56 sur France Inter. C'était la Mano Negra en 1990. Pas assez de toi. On approche de la fin de l'émission. J'ai une dernière question à poser à mes invités.
Le débat de midi, Dorothée Barba.
J'aimerais connaître un sujet sur lequel vous avez changé d'avis. On commence avec Denis de Béchillon en direct depuis Pau. Sur quoi avez-vous changé d'avis?
Alors j'ai beaucoup changé d'avis sur l'inconvénient qu'il y a à changer d'avis. Pendant très longtemps, quand j'étais jeune, je me disais que c'était épouvantable d'être intellectuellement instable. Et puis, comme je le suis devenu, par la force des choses et de l'expérience, je me suis mis à réfléchir à ça. Et je lisais chez Winston Churchill une citation de Ralph Waldo Emerson qui dit tout, et je vous la lis. « Une absurde constance est le démon qui traverse les petits esprits. Il est comme vénéré par les hommes d'État médiocres, les philosophes sans génie et les théologiens étroits. Dites vigoureusement ce que vous pensez aujourd'hui, demain. Dites tout aussi vigoureusement ce que demain vous fera penser, quand bien même cela contredirait tout ce que vous avez dit aujourd'hui. » Et je trouve ça très bien.
C'est magnifique. « J'aime les gens qui doutent », répondrait Anne Sylvestre. Hein. « Les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. » Marianne Coindet, même question.
Le doute, c'est la base de la science. scientifique qui ne douterait pas ne serait pas un scientifique. Donc le doute est une très bonne chose. Et oui, oui, j'ai changé d'avis. Ben, quand j'étais lycéenne, il y avait eu un débat au lycée. Alors je ne sais plus si c'était sur l'avortement ou la peine de mort. Moi, j'avais une famille très catholique, plutôt traditionnelle, etc. Et j'étais farouchement pour la peine de mort et contre l'avortement. Et notre professeur de français avait organisé un débat là-dessus. Et mon adversaire m'avait convaincue. M'avait convaincue que, bah oui,
l'avortement,
c'était plutôt une bonne chose. Et que la peine de mort, c'était pas du tout une bonne idée. Et à la fin du débat, j'avais déclaré publiquement, eh bien, je reconnais que ces arguments étaient meilleurs que les miens et je change d'avis.
Et vous en avez un bon souvenir de ce changement?
Et j'en garde un excellent souvenir, je crois que la démocratie c'est ça.
Yael Gauz, même question.
Moi je reste dans le sujet du jour. En 2000, j'avais 20 ans, j'étais étudiant en sciences politiques à Rennes, j'étais à fond pour le quinquennat. Le quinquennat, c'était le référendum de septembre 2000. Et puis avec du recul, 18 ans après, je me dis, on a eu le quinquennat mais on a finalement le même calendrier. On élit le président, puis les députés en même temps. Où est la respiration démocratique? Et si on regrettait les cohabitations finalement, voilà.
Ça vous manque la cohabitation?
J'aimerais bien.
C'était croustillant en termes d'actualité politique, faut dire. Merci beaucoup à tous les trois. Yael Gauz du service politique de France Inter, Marianne Coandet, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Denis de Béchillon, professeur à l'université de Pau. Et je remercie au passage nos amis de France Bleu Béarn pour la liaison en duplex. Le débat de midi revient demain avec une question autour de l'éducation des enfants. Peut-on éduquer sans punir ou sans menacer de punir? Que les parents qui n'ont jamais utiliser le chantage comme instrument d'autorité nous écrivent maintenant ou se taisent à jamais. Ne pas crier sur ses enfants, ne pas les punir, c'est adopter l'éducation positive. Mais peut-on y voir une façon de consacrer l'enfant roi, voire l'enfant tyran? J'attends vos réactions sur franceinter.fr à la rubrique Le débat de midi.